9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, bonjour et bienvenue. Nous allons parler d'un sujet passionnant ce matin avec mon invité, le docteur Jean-Marc Benayem. Bienvenue.
Bonjour, bien, merci de votre invitation.
Vous êtes médecin hypnothérapeute et vous avez créé en 2001 le diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière et vous dirigez un centre qui s'appelle le Centre Hypnosis, un centre de soins spécialisé dans les applications médicales de l'hypnose. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler de Hypnose-toi toi-même. C'est un livre sous-titré Tabac, perte de poids, migraines, stress, sommeil aux éditions Flammarion. Vous avez un métier incroyable. J'imagine que quand vous arrivez quelque part et que quelqu'un vous demande ce que vous faites dans la vie, que vous lui dites bah, « je suis spécialiste de l'hypnose », alors là, tout de suite, les gens me disent oh, « tu peux m'hypnotiser ou... »
Oui, c'est vrai, c'est un thème qui ne laisse pas indifférent.
Ah ouais,
ça intrigue, à la fois ça inquiète, à tort évidemment, et à la fois ça intrigue, et puis tout de suite, ah mais moi j'ai peur de ci, ah mais moi j'ai des douleurs, ah mais moi je dors pas bien, etc.
Mmh. Donc c'est un sujet. Et après, est-ce que les gens vous demandent de pratiquer sur eux ?
Oui, ça arrive dans des dîners par exemple.
Ben non, c'est pour ça, vous êtes l'invité idéal.
Voilà, on me dit. Vous pourriez nous faire une petite démonstration et bon, si vous voulez, mais c'est des petits exercices simples qui sont sympathiques. Ouais.
Alors, j'ai appris en lisant votre livre que l'hypnose s'est d'abord appelée magnétisme animal ou mesmérisme du nom d'un médecin de la fin du 18e. Alors, pourquoi ce nom ?
C'est parce que c'était la mode du magnétisme. On avait découvert les aimants. Et donc, le médecin Franz Anton Mesmer, un médecin autrichien, allemand, qui est venu en France, s'installer en France, trouvait que, entre tout ce qui est animé, animal, ça voulait dire, entre les êtres animés de vie.
Ah oui.
Entre tout ce qui est animé de vie, il y a un fluide qui passe. Et c'est vrai, puisqu'on dit, ah ben avec telle personne, je me sens à l'aise, il y a une bonne ambiance dans cette pièce, dans cette salle. J'aime bien la nature parce que les arbres, ça me fait quelque chose de voir des beaux arbres, un ciel avec des nuages. Donc, il a dit, il y a quelque chose qui circule entre tout ce qui est vivant. Si on agit là-dessus, peut-être qu'on va pouvoir rééquilibrer une personne qui ne va pas bien.
Et c'est lui qui donc
a
conceptualisé le concept.
Il a conceptualisé avec beaucoup de finesse, parfois un peu trop de, comment on va dire... il voulait vraiment que ça soigne tout, alors que non, évidemment. Il fallait trouver des réserves quand même. Mais bon, la médecine à l'époque était quand même pas très développée. Donc lui, il voulait que ce soit efficace sur tout. Alors que nous, maintenant, on sait que c'est plutôt efficace sur la souffrance, sur les douleurs, etc., les addictions. Mais il a parlé très intelligemment de ce fluide qui circule entre les êtres et donc qui va soigner la relation. Voilà la relation qu'on a avec son corps, qu'on a avec les autres, qu'on a avec la vie.
Donc, rendons à Mesmer ce qui lui appartient. Mais donc, quelqu'un qui sur scène s'appellerait Mesmer, finalement, rejoindrait une lointaine filiation.
Voilà, c'est ça. Il utilise la puissance du vrai Mesmer en faisant croire que lui aussi, il a ce pouvoir, alors que c'est un pouvoir qui est dans chaque humain. Ouais, c'est pas un pouvoir qui est donné à un acteur incroyable, un charisme. Non, non, c'est chaque humain, chacun d'entre nous qui a ses possibilités de guérison, d'amélioration. Et lui, il mobilise ça. Voilà. Donc c'est vrai, c'est pas très sympa d'avoir piqué le nom du célèbre Mesmer. Voilà, mais c'est ce qui fait l'actuel, c'est pas de l'hypnose, c'est de la manipulation.
C'est de la manipulation.
Voilà, c'est ça, c'est en ça que c'est un peu tordu.
Ben, finalement, est-ce que l'hypnose, c'est pas de la manipulation ? Moi, en lisant votre livre, j'ai cru comprendre que l'hypnose, c'était une forme de diversion du cerveau.
Alors, c'est tout ça à la fois, vous avez raison. C'est simplement, on manipule, si on veut dire manipuler, mais d'une façon très bienveillante.
Oui, mais voilà, c'est parce qu'on a mis au mot manipulation cette connotation péjorative, alors que la manipulation, c'est tout à fait, ça peut être conscient, positif.
Alors, il faut savoir au bénéfice de qui. Si la manipulation est faite au bénéfice de l'hypnotiseur de music hall, qui doit amuser la salle, donc, on sait que sa manipulation ne va pas être bienveillante. Elle vise à distraire un public en ridiculisant les personnes qu'il fait monter sur scène. Ça, ça ne va pas. Si la manipulation, c'est pour qu'une personne aille mieux dans sa vie, dans son corps, Alors oui, on dit, bah oui, moi je veux bien être manipulé pour ne plus fumer, je veux bien être manipulé pour mieux dormir. À ce moment-là, la manipulation devient tout à fait bienveillante. On bouge quelque chose, vous voyez, manipulation, on va dire, on bouge quelque chose chez la personne pour qu'elle aille mieux. Et ça, c'est parfait, oui.
Alors, on le voit quand même, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, l'hypnose a de plus en plus bonne presse, on va dire, oui. Et notamment dans le monde médical, puisqu'on pratique aujourd'hui des opérations sous hypnose. Il y en a une qui a été médiatisée récemment d'un monsieur qui avait 88 ans, qui s'est fait opérer grâce à...
L'opération cardiaque, c'est vrai.
Mais c'est intéressant de voir à quel point, finalement, le regard sur les choses change.
Oui, vous avez raison, c'est étonnant de voir quelque chose qui a toujours existé, qui a disparu et qui réapparaît. Et en plus, qui réapparaît dans un champ où c'est utile. Donc, à la limite, on se dit, mais pourquoi ça a disparu? Puisque ça rend service. Et c'est passionnant de voir qu'il y a une disposition chez l'être humain qui est que nous pouvons prendre une certaine distance par rapport à notre corps et que cette distance nous permet... d'être comme absent, et pendant ce temps-là, le corps est soigné, désinfecté, découpé au besoin, dans des petites opérations, bien sûr. C'est cette distance qu'on peut prendre par rapport à nous-mêmes, des formes dissociatives corporelles, qui fait qu'il y a une analgésie, et le patient dit « Ah bah oui, j'étais un peu ailleurs, ah vous m'avez arraché ma dent de sagesse, j'ai pas fait attention, ah vous m'avez... soigner la brûlure, ah ben moi j'étais ailleurs dans une promenade. Voyez. Donc toutes les opérations qui étaient faites sous des anesthésies loco-régionales, pas des anesthésies générales, loco-régionales peuvent être faites en ajoutant l'hypnose et ça se passe beaucoup mieux.
Ce que vous venez de dire est important, c'est-à-dire que toutes les anesthésies aujourd'hui ne peuvent pas être faites par l'hypnose.
Non, c'est que là où on faisait de l'anesthésie loco-régionale, il y a aussi des accouchements qu'on pourrait faire si plus de soignants étaient formés à l'hypnose.
Ouais.
Et puis si l'accouchement ne pose pas trop de problèmes, bien entendu. Il y a des coloscopies, de plus en plus sont faites sous hypnose. Il y a des soins, des petites chirurgies d'enlever un kyste, de thyroïde, de mammaire aussi, des exérèses de kyste. Dès que c'est du local, c'est du superficiel, pas trop douloureux, on peut faire l'hypnose.
Pourquoi ça ne fonctionne pas sur les autres types d'opérations alors? Ça veut dire que la diversion qu'on fait du cerveau n'est pas suffisamment analgésique?
Oui, absolument, c'est bien dit. La diversion, l'absence qu'on peut avoir à notre corps n'est pas forcément assez longue ou assez profonde, ou elle va dépendre de la personnalité, ou est-ce que la personne a vraiment confiance dans le soignant. Alors on rajoute un petit peu de médicaments, voilà. Et dans des opérations très lourdes comme des chirurgies de l'os, de l'orthopédique, ah là on joue pas, parce que si le patient il sort de la transe, il va dire ah, mais quelle horreur, etc. Et puis on joue pas avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des progrès dans l'anesthésie qui sont tellement considérables et tellement bénéfiques qu'il ne faut pas jouer à une compétition. Ça veut dire que l'hypnose s'ajoute à tous les progrès que nous avons en médecine. Elle ne se substitue pas.
Ce qui veut dire que si on débranche son cerveau, on a pas mal. Et que c'est parce que notre cerveau est branché sur certaines terminaisons qu'on a mal, qu'on ressent la douleur.
On ressent plus la douleur si on s'inquiète d'un geste. C'est-à-dire que si la personne dit « qu'est-ce qu'on va me faire ? Est-ce que c'est sûr qu'ils sont compétents ?» À ce moment-là, il va hypersensibiliser la zone et il va souffrir tout de suite, d'à peine dès qu'on le touche. S'il fait confiance et qu'il dit « ouais, là, je suis en train de me promener à la campagne avec mes petits-enfants et je suis à la plage en train de baigner », à ce moment-là, il s'absente et il lance plein de morphine dans son corps. Et la personne dit, bah oui, non, j'ai senti, mais pas tant que ça, finalement.
C'est parce que la personne, donc, va développer, va créer, justement, quelque chose qui va faire qu'il n'a pas mal, c'est ça?
C'est un nouveau contexte. Le contexte qui est construit est un contexte où la personne se sent en sécurité avec le soignant. Alors, d'une certaine manière, entre guillemets, elle lui donne son corps à soigner, temporairement. je donne mon corps à l'infirmière qui va faire une ponction, qui va me mettre une injection, une perfusion d'un médicament pour soigner mon cancer, ma tumeur. Je le donne parce que je me sens en sécurité. Elle le fait de manière très professionnelle. Et à ce moment-là, le corps lance plein de morphine, notre corps plein de morphine, qui calme la douleur. Et on dit, bah, écoutez, je l'ai bien supporté. Ben non, je n'ai pas de nausée. Eh ben, je peux revenir, faire des soins. J'ai plus peur du geste. Ça change tout le contexte.
Tabac, perte de poids, migraine, stress, sommeil, à vous lire. L'hypnose, c'est bon pour tout?
C'est bon pour tout là où le patient souffre. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on irait dans le tabac alors que c'est une plante mortelle? Eh bien, parce que on imagine que c'est quelque chose qui nous aide, un ami, un compagnon, un traitement du stress. Donc là, l'objectif, ce serait que la personne se défocalise de sa croyance et ressente l'existence du corps. Alors, on pourrait dire, de manière générale, que l'hypnose, ça soigne la relation que l'on a à quelque chose. Et donc, ça peut être la relation à une substance, la relation à une drogue, la relation au passé, à une pensée qui me pourrit la vie, la relation que j'ai dans ma famille avec mon conjoint, mon copain, machin, la relation que j'ai au médecin, la relation que j'ai à un organe qui m'inquiète. Donc, ça soigne la relation. Donc, vous imaginez toutes les relations qu'on a. Ah, c'est pour ça que l'éventail est très large.
Mais pourtant, vous dites que finalement, attention, l'hypnose, ça ne soigne pas. Ça ne soigne pas les maladies.
Alors, absolument, on ne va pas dire l'hypnose soigne la maladie. L'hypnose soigne une personne qui a une relation perturbée, toxique, à un organe qui ne fonctionne pas bien en ce moment. Ça peut être son côlon, donc on va avoir des colopathies. Ça peut être la tête, c'est la migraine. Ça peut être que dans ma vie, je suis trop exigeant ou trop exigeante. Et donc, je me contracte et je me crée des migraines, des céphalées de tension ou des douleurs dans le ventre. Ça peut être des muscles qui restent contractés parce que j'ai tellement de travail, tellement de charges professionnelles que la douleur s'installe. Ça peut créer des fibromyalgies. Donc, vous imaginez...
Ça c'est la maladie du siècle en ce moment.
Maladie du siècle, absolument. Ça peut m'empêcher de dormir. Ça peut... Donc, vous voyez toutes les pathologies qui peuvent arriver parce que je me durcis, je me contracte, je refuse, je m'oppose et voilà, le problème...
Alors, il y a plein de gens qui vous écoutent ce matin et qui doivent effectivement se retrouver dans ce que vous êtes en train de dire, notamment dans les contractures qui finissent la journée très, très, très contractées. Comment est-ce que l'hypnose, finalement, vient à bout de ça ou peut le prendre en charge?
Alors, c'est très individuel. Nous, on donne là des généralités, le tabac... La boulimie, ok, on va dire non.
Alors, c'est vrai que le tabac, je pense que c'est la première fois que j'ai entendu, d'ailleurs, que l'hypnose était efficace.
Ah oui, oui.
Il y a très longtemps, on dit oui, mais essaye l'hypnose, ça marche, le tabac.
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes pour ça. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça d'arrêter de fumer, alors que ça peut être très compliqué de calmer la relation au passé, à ses parents, etc. Si vous voulez... On pourrait aussi dire l'hypnose, ça soigne une personne. Et c'est donc très individuel. Pour arrêter de fumer, par exemple, il y a 1000 chemins différents suivant la personne, son vécu, ses croyances, ses habitudes, son passé, etc. On n'a pas une méthode préétablie où on va faire toujours la même. Donc, ça veut dire que c'est complètement singulier.
Même avec l'hypnose. C'est-à-dire que
mais surtout avec l'hypnose.
C'est ça que vous êtes en train de dire, c'est que comme on est tous uniques, tous différents, chaque méthode est...
Voilà. Alors que le médicament va soigner la même chose pour tout le monde, pour tous ceux qui ont la même pathologie, l'hypnose sera tout le temps différent. Et c'est ça qui intéresse le patient, c'est d'une certaine manière, il se met à exister, parce qu'il dit « Ah, mais là, je suis considéré. Ah, mais là, on s'intéresse à moi, pas à mon bobo. » On s'intéresse à moi, c'est-à-dire moi, comment je suis dans la vie, est-ce que je peux modifier quelque chose? Et le fait de s'intéresser vraiment à la personne, sincèrement, nous permet de résoudre les problèmes.
Ah, dans votre livre, vous prenez l'exemple d'une personne, d'une femme notamment qui s'est arrêtée de fumer, grâce à l'hypnose et qui est contagieuse, puisqu'après, une fois que les gens savent qu'elle a arrêté grâce à l'hypnose, tout le monde lui demande comment elle a fait.
Voilà, le chemin existe. Je dis ça souvent aux patients, qu'ils soient prêts ou pas encore prêts. Le chemin existe. À vous de le trouver, et nous, on peut les aider. Mais souvent, il existe, et beaucoup de personnes s'arrêtent de fumer tout seuls. À peu près 18-20% s'arrêtent de fumer tout seuls. Et donc,
je pense comment ils font ? Même plus que ça, d'ailleurs. Hein.
Peut-être plus, oui. Ouais. Et comment ils font ? Eh ben, c'est ça, l'auto-hypnose. Comment ils ont fait pour passer d'une espèce de focalisation ?
J'ai jamais entendu quelqu'un qui s'arrêtait de fumer tout seul dire « Je me suis auto-hypnotisé ».
Mais non, parce qu'il ne le sait pas. Il parle, il passe d'une idéalisation à une désidéalisation. Il vénérait le truc « C'est à moi, c'est mon ami, c'est mon remède » à « Oh non, non, ça me pourrit la vie ». C'est comme dans un état amoureux. Il est passé d'un état passionnel, où il était un peu enfermé
dépendant
d'eux, et il passe à un état dépassionné, où il dit « Bah non, finalement, c'est pourri comme relation, je m'en vais ». Et donc, tout le monde a vécu ça, d'avoir un ami, puis non, finalement, c'est pas comme j'aurais voulu, et puis finalement, on se sépare.
Le docteur Jean-Marc Benayem est notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes médecin hypnothérapeute, que vous publiez « Hypnose-toi toi-même, tabac, perte de poids ». Migraine, stress, sommeil aux éditions Flammarion. On fera des exercices tout à l'heure. Je voudrais faire l'exercice de la pince à linge.
Ah oui, c'est...
On va pas le dire maintenant, mais si vous avez une pince à linge, on le fera tout à l'heure et vous verrez en quoi ça consiste. AVS, à votre santé jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle d'hypnose ce matin, j'ai invité le docteur Jean-Marc Benayem, vous êtes l'un des grands spécialistes de l'hypnose en France, hein. Vous avez même créé, il y a 17 ans maintenant, le diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière, autant dire que quand vous avez créé ça, tout le monde devait vous regarder de façon... Donc qu'est-ce que c'est cette Uluberlu ?
On est resté bien au moins 7 ans, les seuls. Et puis, ça a été contagieux brusquement. J'ai dit, bon, ben, si ils ouvrent ça à la Salpêtrière, pourquoi pas nous ? Et hop, ça a encouragé d'autres hôpitaux à ouvrir. Et je crois maintenant qu'il y a près d'une vingtaine de DU en France. Et ça, c'est sympa parce que l'hypnose peut vraiment rentrer dans le champ médical, à l'hôpital, dans les blocs opératoires. Ça, c'est super.
Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir raison un peu avant tout le monde ?
Ça fait un moment que l'hypnose essaye de revenir. C'est historique. Elle s'en va, elle revient, c'est comme des vagues. C'est-à-dire, si on la défend au mauvais moment, bah, on n'est pas entendu. Et là, elle avait envie de revenir, cette hypnose, parce qu'il y avait beaucoup de techniques, parce que le patient, on n'en tenait plus tellement compte, on se réfugiait derrière des médicaments, des protocoles. Elle avait envie de revenir, et j'ai lancé, et c'est passé. Et donc, ça a amplifié le mouvement.
Vous publiez Hypnose-toi toi-même, tabac, perte de poids, migraine, stress, sommeil aux éditions Flammarion. C'est un livre guide qui nous accompagne chacun d'entre nous dans notre singularité. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes uniques. L'hypnose au départ, c'est une pratique médicale. Si elle a été dévoyée, c'est un peu et beaucoup grâce et enfin à cause du musical et de tous les sketchs qu'on a vus et tous les numéros qu'on a vus sur scène.
Les effets sont tellement étonnants que ça fascine tellement à la fois les médecins, mais aussi les non-médecins, qu'ils ont envie de tous devenir guérisseurs. Parce qu'ils se disent, mais c'est incroyable, on peut changer à ce point-là, on peut se libérer à ce point-là, on peut trouver sa liberté. À dire, ben moi je vais faire ça, je vais faire thérapeute, je vais faire soignant. Donc il y a une dérive actuellement qui nous inquiète beaucoup. C'est pour ça que je recommande toujours aux personnes qui veulent faire de l'hypnose de demander... Est-ce que vous êtes un professionnel de santé de façon à avoir vraiment un avis médical et pas un tour de passe-passe où on va peut-être passer à côté d'une pathologie grave. Donc on doit demander, monsieur, madame, vous faites de l'hypnose, mais est-ce que vous êtes un professionnel de santé ? Est-ce que vous êtes psychologue, médecin, dentiste, sage-femme ? Voilà, ça c'est important.
C'est-à-dire que c'est bien s'il y a une pratique médicale à côté.
Voilà, c'est ce que dit le code d'éthique. L'hypnose s'ajoute à un savoir préalable.
Ça marche sur les animaux ?
Bien sûr, mais on ne va pas parler d'hypnose, on va parler de catalepsie, de cataplexie. Par exemple, si vous prenez un batracien, un lapin, et que vous le faites, ou un oiseau, que vous le faites une manœuvre de retournement brusque sur le dos, eh bien l'animal va rester prostré comme ça, le dos comme ça, bizarre, dans un état second, et puis au bout de quelques minutes, il va commencer à bouger, se retourner, se remettre sur ses pattes et se sauver. C'est les vétérinaires connaissent très bien ces formes catatoniques.
Alors, vous avez piqué l'idée du père de la méthode Coué.
Alors,
Émile Coué, qui avait publié le premier livre en France sur l'auto-hypnose déjà.
Alors, voilà, c'est ça. Il y a un premier mouvement qui est « je vais aider les patients, moi, médecin, je vais aider les patients ». Puis après, on se rend compte que les patients, ils résolvent des problèmes tout seuls. Alors, on dit, alors peut-être qu'on n'a pas besoin toujours d'être là, leur tenir la main, ils vont peut-être résoudre. Alors, on s'est dit, le mieux, ce serait peut-être de donner de l'impulsion par des exemples cliniques et de redonner confiance aux personnes qui souhaitent, en disant, mais vous pouvez aussi résoudre. Bon, vous pouvez consulter aussi, mais franchement, il y a plein de problèmes qu'on résout soi-même, qu'on peut résoudre soi-même, et ça vaut la peine de les inciter à...
Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypnose, finalement, au-delà des clichés ?
Et ce serait une personne qui élargit sa perception. Par exemple, elle avait une perception focalisée sur un organe de son corps, sur une croyance. Je suis fasciné par le sucré, j'adore le sucré, c'est ma récompense. Et l'idée, c'est que la personne, pour guérir, doit retrouver un espace plus large. Par exemple, son corps. Et elle va dire, ah oui, d'accord, moi je dis que j'aime, mais mon corps n'aime pas. Moi je dis que, mais mon corps est tout contracté, tout douloureux, et j'ai pris 20 kilos, les poumons sont remplis de goudron. En élargissant et en retrouvant son corps, elle va peut-être changer en disant, ah, alors peut-être je me suis mal orienté. Donc, ce serait ça, l'hypnose. Une personne désorientée...
Attends, restons sur, sur le sucre, là. Par exemple, il y a des gens qui ont tendance à manger sucré, le sucre, appelant le sucre, donc voilà.
Ok, alors, donc, voilà, la personne, par exemple, dit, moi, mon plaisir, c'est de remplir, et c'est de manger des gâteaux beaucoup, toute la journée, et puis plein de chocolat, et elle a pris 20 kilos, évidemment. Donc, l'objectif, ce serait que la personne soit défascinée de cette fixité, cette fixation. Non, ce n'est pas mon remède. Non, c'est mon empoisonnement, ce qui est vrai. Pour ça, il faut qu'elle retrouve le corps, parce qu'intellectuellement, elle le sait.
Et si tout le monde le sait. Comme les gens savent que fumer tue et que c'est pas bon pour la santé.
Donc, ça ne fonctionne pas du tout, le savoir intellectuel. Il faut qu'elle retrouve son corps, puisque dans son corps, il y a des zones qui disent « j'en veux plus », j'aime pas, je suis allergique. Et elle devient une partie d'allergie d'elle-même. Elle devient son corps, elle devient un organe qui souffre. Elle devient le refus de quelque chose. Donc, parce qu'elle y désidéalise, elle voit la chose comme c'est. C'est-à-dire, avant, elle voyait l'apparence. Ah oui, c'est génial, la saveur, j'adore. Et puis maintenant, elle voit plus loin que l'apparence. Elle dit, oui, d'accord. Et après, comment je suis ? Ah ben non, après je regrette, je me sens nul, je me sens ballonné. Et donc, elle va adhérer à la deuxième étape et l'apparence est balayée. Elle voit les choses comme c'est. Un peu, vous voyez, comme un ami. S'il est beau ou elle est belle, elle a une belle apparence, elle dit oui, d'accord, mais derrière ? Ah, derrière ? Ah ben non, il m'a fait des coups tordus, tout ça. Elle dit, ben, c'est ça qui compte. Donc, je dépasse l'apparence pour désidéaliser quelque chose. Et j'ai plus envie de me remplir, ça m'écœure trop, ça me donne les nausées, ça me plaît plus, je désidéalise ce que je croyais être ma récompense.
Alors que moi, je pensais que l'hypnose, c'était faire dormir quelqu'un, vous voyez. Alors, on faisait dormir quelqu'un, qu'on lui disait dans le creux de l'oreille, tu détestes le sucre, tu n'en manges plus, et que hop, il se réveillait, il était débarrassé de son.
Alors d'accord,
addiction au sucre.
On endort la croyance précédente et on réveille la personne. Donc finalement, dans l'hypnose, on passe plus de temps à réveiller quelqu'un qu'à l'endormir. Réveiller, ça veut dire qu'il ressent son corps. Réveiller, ça veut dire qu'au fond, peut-être l'industrie l'avait endormi. En lui disant, mange, remplis-toi, c'est ça la fête, c'est ça la convivialité, l'alcool, c'est super pour toi, ça va te calmer ton stress, ça fait la fête, c'est sympa. Donc on l'avait endormi. Et d'une certaine manière, le travail que le patient, la personne va faire elle-même, c'est de se réveiller, dire « mais attendez, c'est pas vrai du tout, j'ai plein d'effets secondaires, finalement je suis rentré dans la souffrance ». Et à ce moment-là, elle peut commencer à changer.
J'ai vu qu'il y avait une solution qui consistait à en rajouter pour commencer par dégoûter les gens.
Alors, il y a vraiment plein de techniques possibles.
Donc, il n'y a pas qu'une technique. Hein.
Oui, voilà. Il n'y a pas de protocole. Il y a vraiment de très nombreux... C'est pour ça que je donne plein d'exercices dans, dans cet ouvrage. C'est pour que la personne dise « Ah, celui-là, il me parle. Celui-là, c'est moi. Non, celui-là, non. Celui-là, oui. » Il y a des techniques où on en rajoute. Pourquoi on rajouterait du problème ? C'est pour que la personne prenne conscience du problème. Elle était absente. En rajoutant, en aggravant le problème, elle dit « Ah, mais là, mais c'est vraiment un empoisonnement. » Et à ce moment-là, elle prend conscience, elle se réveille et elle peut inverser la mécanique.
Et ça marche avec autre chose que le sucre. Hein.
Oui, ça arrive que la personne... Avant, elle était passive. Elle disait « Ça y est, mon mal de tête arrive. Ah mon Dieu, j'en peux plus. Le mal de tête prend pouvoir sur moi. » Alors on dit à la personne « Faites venir un petit peu de mal de tête. » C'est facile, hein, il suffit de contracturer les muscles. Et brusquement, elle se rend compte qu'en fait, elle peut maîtriser la chose. C'est-à-dire, si je peux faire venir, alors je peux faire partir. Ça change tout, alors qu'avant... J'étais désemparé par la douleur. Si je peux faire venir mon mal au ventre, je peux le faire repartir. Alors qu'avant, c'était « Non, je suis passif, je suis une victime, ça a pris pouvoir, ça va me pourrir le week-end, etc. » Donc ça change complètement le contexte.
Alors, si on prend l'exemple des céphalées et des migraines, quel est un exercice, par exemple, adapté à la migraine ? Parce que là, c'est vraiment, quelque chose qu'on connaît.
Il y a la plupart des maux de tête sont dus à des céphalées de tension. C'est-à-dire avec des muscles dans la nuque qui se contractent, dans le visage, dans le front, dans les épaules. Et cette contracture comprime les nerfs et hop, ça y est, le mal de tête vient sur la tête, le front, les yeux, et un peu des deux côtés, parfois un seul côté. Eh bien, on peut proposer des exercices de faire venir une contracture volontaire. Voilà, pour que le patient sente que cette contracture, c'est au fond le début de quelque chose qui va gêner, qui va perturber. Et ensuite, on lui demande de faire repartir. On fait revenir et on fait repartir. Jusqu'à ce que la personne, finalement, rentre dans son propre corps. Elle était absente.
Ça veut dire quoi, rentrer dans son corps ?
Ça veut dire le ressentir. Elle rentre dans ses épaules. Son corps l'inquiétait, donc elle le fuit. Alors on lui dit, allez-y, rentrez dans votre corps pour bien résoudre le problème, pas pour se plaindre. Alors elle dit, ça y est, là je suis dans mes épaules, ah là je suis dans mon dos, voilà, bon les lombalgies, ah là je suis dans mes yeux, et plus elle est présente dans son corps, plus elle peut résoudre le problème. Alors qu'avant, elle dit, non, ça me vient tout seul, je ne sais plus quoi faire, je suis désemparé. Ça change tout d'être présent.
Dans la tête, quand on a provoqué toutes ces contractures et qu'on a convoqué le mal de tête.
Et ben ensuite, on peut lui dire, j'en veux pas. Et ça relâche. Attention, ces phénomènes-là, on les fait en exercice pour qu'ils deviennent automatiques, réflexes. On ne peut pas faire tout le temps des efforts pour aller mieux. Après, c'est le réflexe. Et la personne dit, tiens, c'est marrant ça, depuis un mois, j'ai eu beaucoup moins de... Comme la femme que j'ai vue hier, qui me dit, je suis passée devant des boulangeries, je me suis dit, tiens, je rentre. Et puis, je me suis dit, bon, non, finalement. Alors qu'avant, j'y allais. Donc, elle a modifié sa relation. Elle peut dire non. Alors qu'avant, elle disait
voilà,
tout le temps
vous dites, par exemple, qu'il y a des exercices aussi pour apprendre à dire non.
Mais oui, parce qu'on est trop vulnérable, très influençable. Et quand on nous tente, on nous stimule, on nous met sous le visage, sous les yeux, quand on nous fait deviner une saveur, on dit « bon, ben d'accord, non mais je vais lui faire plaisir, je vais dire oui ». Alors que le corps, il dit « non, moi ça suffit, je suis déjà rempli ». Donc on travaille pour qu'on soit à l'aise pour dire non.
Ça marche devant les boulangers. Hein. Le docteur Jean-Marc Benayem est notre invité, je rappelle, docteur Benayem, le titre de votre livre, ça s'appelle « Hypnose-toi ». Toi-même, tabac, perte de poids, migraine, stress, sommeil, boulangerie, on l'a vu aux éditions Flammarion. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Nous parlons d'hypnose ce matin et d'auto-hypnose avec le docteur Jean-Marc Benayem, qui est mon invité, médecin hypnothérapeute. Et vous publiez « Hypnose-toi toi-même, tabac, perte de poids, migraine, stress, sommeil » aux éditions Flammarion. Pourquoi l'expression « la nuit porte conseil » est-elle un bon dicton ?
Parce qu'elle nous met en relation avec des phénomènes non conscients. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit qui fait que un problème me paraît moins insupportable ? Qu'est-ce qui fait qu'avec le temps, un deuil que je ne devrais pas supporter, voilà, on a perdu un parent, une grand-mère, qu'est-ce qui fait qu'avec les jours et les semaines et les mois, je dis bon, eh ben, c'est toujours triste, mais ça va, j'arrive à traverser cette épreuve. Eh bien, ce sont des phénomènes d'adaptation non conscients qui se font pas par un effort, mais parce que c'est ça la vie. C'est de pouvoir supporter des épreuves et rester quand même dans, je vais quand même à mon boulot, je continue à avoir confiance, alors que j'ai vu des choses dures, tragiques, pénibles, etc. Il y a donc ces phénomènes non conscients, et c'est ça qui s'active dans l'auto-hypnose. Enfin, on appelle ça comme on veut. Ce sont des phénomènes naturels, et comme ils sont naturels, ils ne demandent pas d'effort. Il suffit que je dise, ben, moi j'ai envie de retrouver une simplicité, j'ai envie de retrouver ma nature, j'ai envie de retrouver un détachement, et ça se fait parce que c'est comme ça qu'on reste en vie. C'est par une adaptation à des traumatismes.
Donc, l'auto-hypnose est un processus naturel qu'on a chacun en nous.
Complètement, oui.
Alors, c'est vrai que quand on le voit à la télévision ou quand on le voit au cirque, c'est tu entends ma voix, que ma voix, tout ça. Donc, ça n'existe pas.
Si, ça existe au music hall. Ça existe aussi au music hall. Là, c'est une caricature. Ça existe aussi dans le soin. Quand la personne a besoin, parfois on est tellement dépassé par un problème qu'il faut se faire accompagner. Bon, mais vraiment, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre sans avoir besoin de consulter. C'est pour ça que j'ai fini par faire ce livre en disant, si vous avez besoin de consulter, allez-y, bien sûr. Mais voyons déjà si vous pouvez résoudre par quelques exercices, on a ces ressources. Pas pour faire, je dirais, une compétition, vous allez voir que je suis le plus fort. Non, c'est parce que c'est naturel. Alors, je peux me désintéresser d'une substance sucrée, je peux oublier une souffrance, je peux tourner une page, et voilà comment on peut faire, et c'est ça qui est passionnant. On a cette disposition qui est physiologique. Voilà, c'est pour rester en vie, hein. Sinon la vie devient pourrie si on laisse envahir par des souffrances.
Alors, l'exercice de la pince à linge dont je parlais tout à l'heure,
oui, on peut le faire.
Alors, quel est le principe ?
Alors, le voilà, il est très simple. On prend une pince à linge et on peut la poser, on ouvre la pince et on peut la poser sur le dos de la main. Voilà, sur le dos de la main, vous avez vu, on a une peau qui est un peu...
qui est lâche.
Voilà, qui est lâche.
On peut la pincer.
On peut la pincer facilement. Ouais. Donc, on attrape un morceau de peau, on met la pince à linge. C'est pas hyper douloureux, mais c'est un peu désagréable. Il faut créer du désagréable. Et puis, on attend. Voilà, vous mettez cette pince et on attend. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, on attend que ça diminue.
La douleur, vous voulez dire ?
Que la douleur diminue, absolument. Que le désagréable qu'on a créé commence à diminuer. Si vous trouvez que ça augmente, alors il faut attendre encore un petit peu que le corps trouve, écoute, non, moi j'en ai marre. Il faut mettre ça sur une peau qui n'a pas été blessée, sinon ça peut rappeler des traumatismes anciens, donc ça n'ira pas. Et puis au bout de quelques instants, ça diminue. Pourquoi ça diminue ? Eh bien parce que le corps libère de la morphine, parce que je dis, ça va, c'est pas dangereux. Et c'est cet effet-là qui nous intéresse, d'analgésie, et qui crée une auto-hypnose.
Donc, finalement, quoi qu'il arrive, le corps finit par trouver une solution si ce n'est pas trop dangereux pour lui.
Si nous, on ne s'inquiète pas de cette pince, mon Dieu, quelle horreur et tout, alors le corps, il dit, t'es détendu, tu t'en fiches. Complètement. Pendant que la pince était là, j'étais en train de me balader, j'imaginais, je regardais ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Et le fait de dire « ça ne m'intéresse pas », alors le corps est dit « alors je calme ».
Et là, on s'est mis en état d'auto-hypnose. Et
on s'est mis en état d'hypnose parce que nous, on focalise. C'est ça notre souffrance. Je focalise sur un drame et je focalise sur machin qui m'a dit ça, c'est pas gentil. Je focalise, mes parents, ils m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient. Et ça y est, je vais pas bien. On dit « mais tu peux t'intéresser à autre chose un peu ?» Et à ce moment-là, dès que je dis, bon, alors c'est comme ça, je déplace mon attention, c'est comme ça, je ne peux pas modifier le cours des choses. Et à ce moment-là, comme je me détache, ça y est, ça peut repartir dans l'oubli.
Comment vous fonctionnez pour des personnes, et vous donnez l'exemple dans votre livre, de personnes qui sont envahies par des pensées récurrentes, qui tournent en boucle?
Alors, c'est quand même
une vraie souffrance.
Ouais. Et c'est une part très importante des pathologies et des personnes qui demandent des conseils, de l'aide. Cette rumination, cette plainte que nous avons facilement, tout le monde, n'est-ce pas? C'est très banal. C'est vraiment un des sujets à traiter de manière le plus urgent, pour ne pas qu'on traîne ça indéfiniment. On plonge tous les souvenirs pénibles dans l'oubli en disant « ben voilà, je vais m'adapter à ça ». Mais en même temps, vous voyez, là, je suis en train de dire une généralité. Chaque personne doit trouver, mais comment je dois, moi, avec mon problème, ma vie, mon corps, ma famille, mon entourage, résoudre ce problème. Il n'y a pas de généralité. La généralité, ce serait de dire, je défocalise d'eux et je dis, je m'adapte à la situation comme elle est. Ou plus exactement, je dois même aimer ce qui m'est imposé par l'existence. Et si la personne dit, je dois aimer ce qui m'est imposé par l'existence, ben oui. Même tous les drames, ben oui, parce que c'est la réalité. Et si je dis, non, je dois fuir, non, j'en veux pas, eh ben ça augmente, c'est même pire et de pire en pire. Donc il y a à la fois une technique générale, et puis après c'est la personne qui va accommoder suivant...
En fonction des idées, de sa culture,
de son éducation...
Alors pour expliquer aux gens qui nous écoutent, il y a une expérience sur les acouphènes par exemple.
Alors voilà, c'est vraiment un exemple intéressant. Quelque chose vient, va savoir pourquoi, un bruit désagréable qui me vient dans les oreilles. On pourrait dire plein de choses comme ça. Je me rends compte que j'ai ce bruit, ou bien je me rends compte que je vieillis, ou bien je me rends compte que mon dos n'est plus aussi puissant qu'avant, je me rends compte que j'ai des sciatiques. Vous voyez, une anomalie ou une pathologie m'arrive. Soit je m'y oppose et je dis « Ah ben non, ça je ne supporte pas, parce qu'avant j'étais parfait et là je ne suis pas. » Et là, ça y est, ma vie va être que de la souffrance. Parce que je m'oppose à une anomalie, un bruit, un handicap. Je m'oppose « Ah, j'ai perdu un bras, ah, j'ai perdu une jambe, c'est des choses horribles. » Oui, mais je refuse, parce que je n'ai pas traversé quand il fallait, etc. » Dès que je m'oppose à quelque chose qui m'est imposé, parce que je ne peux pas revenir là-dessus, le problème s'aggrave. Et les douleurs arrivent, et la souffrance arrive.
Ce qui explique que certaines personnes surmontent mieux le handicap, par exemple, que d'autres. On se dit, ils ont réussi à faire ça, c'est incroyable.
Alors, grâce à quoi on surmonte quelque chose? Eh bien, parce qu'on dit, ok, c'est bon, je vais faire avec. C'est imposé, donc je vais m'adapter à la situation. Je vais arrêter de me plaindre, c'est comme ça. Et petit à petit, la personne revient dans la vie. Alors qu'avant, elle était à s'opposer à la vie qui est là, présente, à s'opposer à ce corps qui me fait du bruit dans les oreilles.
Alors revenons à nos acouphènes. Donc dans ces cas-là, comment on fait diversion?
C'est intégré.
Parce que les acouphènes, c'est obsédant. Pour ceux qui souffrent d'acouphènes,
c'est complètement obsédant.
C'est assourdissant.
Si je m'oppose à ce bruit que je repère, si je focalise sur ce bruit, il augmente. Je l'isole. Et ce bruit va diriger, va dominer toute ma journée, je surveille tout le temps. C'est comme un enfant. Si vous surveillez un enfant en lui disant « Oh là, j'ai pas confiance, hey, mais je veux voir son travail, montre-moi tes devoirs, etc. » il va aller de plus en plus de travers. Si on dit « Non, c'est bon, fais comme tu peux, du mieux possible, j'ai confiance, puis je t'aime de toute façon », à ce moment-là, il va dire « Ah bon, alors ça y est, j'ai confiance », et il va s'arranger. Eh bien, c'est pareil avec le bruit. Je dis, j'intègre ce bruit, il n'est pas agréable, mais ça fait partie de moi. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est que le corps vient l'atténuer. Il vient se mélanger à tout le reste, je ne focalise plus, et il reste dans le fond. Alors que sinon, il était devant la scène, si je puis dire, au premier rang. Et moi, je suis là tout le temps à le surveiller. Et s'il est derrière, je dis, bon, ok, ça fait partie. Et le corps se met à l'atténuer. Et le soulagement vient.
On en revient à la diversion. On a fait diversion.
Ce sont des phénomènes attentionnels, certainement, oui.
Ouais, l'auto-hypnose, c'est comme un auto-traitement, finalement.
Oui, ça fait partie de la vie. J'intègre quelque chose alors que je le refusais. Ce sont aussi beaucoup des mécanismes attentionnels. Si je fixe mon attention dessus, ça s'aggrave. Si je dis, mais là, je suis obligé d'incorporer ça. J'ai vieilli, je ne peux pas faire autrement. Mmh. Ah bon, d'accord, j'ai plus la force que j'avais, j'ai plus la capacité. J'accepte. À ce moment-là, le corps, il atténue et il me fait supporter les l'arthrose, la fragilité. Mmh. C'est comme ça.
On ne peut pas avoir mal à deux endroits en même temps ?
Ben si, on peut avoir mal dans les jambes. C'est notre attention, on se déplace.
C'est notre attention qui finalement focalise sur la douleur qu'elle trouve la plus grande finalement.
On utilise ces phénomènes de diversion et d'attention pour justement faire un soin qui pourrait être douloureux. Les dentistes font ça, les sages-femmes qui vont faire un accouchement, aider un accouchement font ça. Elles demandent à la personne de placer son attention ailleurs. Mmh. Et comme vous disiez, on ne peut pas être présent, attentif à deux endroits simultanément. Alors comme la personne est ailleurs, elle va moins surveiller le bébé qui arrive, la dent qu'on m'enlève, la brûlure qu'on me soigne. Et cette espèce de diversion attentionnelle permet de mieux supporter le soin.
Bon, en tout cas, pour mettre un mot, une explication sur ce qu'on est en train de raconter ce matin, il faut que vous puissiez l'essayer vous-même, finalement, le pratiquer, parce que vous allez comprendre ce que c'est que l'auto-hypnose en pratiquant.
Oui, intellectuellement, on a compris tellement de choses, mais ça ne suffit pas. Alors, il faut passer à l'action, il faut tester, il faut mettre à l'épreuve, et puis on dit « Ah, mais oui, mais ça, en fait, je le faisais déjà. Ah, mais oui, mais ça me parle. » Mais déjà, pour m'endormir, je me souviens, il y a longtemps, j'imaginais que j'étais une princesse, j'ai le petit enfant, j'imaginais que j'étais en train de jouer au tennis, j'étais le grand champion. Ah ben, d'ailleurs, c'est ça qui m'endormait. Une façon qu'on retrouve et qui fait partie de nous, voilà, et qu'on retrouve et qui nous est familier.
Voilà, ça agit sur les troubles alimentaires, les boulimies sucrées, on en a parlé ce matin, sur le sommeil. On peut agir sur le sommeil sans le traquer ? Finalement.
Dès qu'on surveille une fonction, il faut absolument que je dorme mes 7 heures. Hein, sinon, le lendemain, je ne suis pas bien. Ça y est, on est en train de le détraquer. Dès qu'on est exigeant pour une fonction où on n'a pas de pouvoir, puisque ce sont des mécanismes non conscients, on le détraque. Si à l'inverse, on dit, écoute, je verrai bien, on fait comme on peut, et puis c'est comme ça, peut-être une nuit sera meilleure qu'une autre, à ce moment-là, il s'harmonise, il sera pas parfait, mais il va pas se détraquer plus que s'il est déjà détraqué, donc ça devient vivable.
Bien, vous nous expliquez que l'auto-hypnose utilise des paradoxes, il y en a 14.
Oui, ce sont...
C'est quoi un paradoxe, par exemple ?
Eh bien, par exemple, il y en a un qui est le plus classique. Plus on s'intéresse à quelque chose, plus on le détraque. Plus je veux comprendre mon problème, plus je le défais. Pour le résoudre, je dois le quitter. Et d'ailleurs, on dit ça souvent dans la vie. On dit, non mais arrête, prends un peu de recul. Non mais arrête d'y penser tout le temps. Prends de la distance. Et à ce moment-là, je dis, c'est drôle ça, j'ai pris de la distance et je l'ai résolu. Donc... voilà un paradoxe énorme. Plus on est dans quelque chose, pire c'est. Voilà, c'est comme ça.
C'est ce que vous allez retenir ce matin, docteur Jean-Marc Benayem. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Hypnose-toi toi-même, tabac, perte de poids, migraine, stress, sommeil, aux éditions Flammarion. C'était un plaisir éveillé que de vous parler ce matin.
Merci de votre invitation.
À votre santé, reviens dans un instant.